Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. De plus en plus de questions se posent dans le pays et notamment dans le Victoria sur la propagation du virus dans les maisons de retraite. On en parle dans ce journal. La France qui annonce un contrôle systématique des personnes arrivant de 16 pays, en particulier aux aéroports internationaux. Et en sport, en football, le Paris Saint-Germain qui remporte la Coupe de France hier face à Saint-Étienne. Mais non sans douleur, blessure de Kylian Mbappé. Débute donc ce journal avec un point coronavirus comme dans chaque journal depuis le début de la pandémie. La Nouvelle-Galles du Sud a annoncé 15 nouveaux cas de Covid-19, dont 8 liés à un cluster connu dans un restaurant thaïlandais et 6 autres qui sont des résidents de retour dans l'État. Le Victoria vient tout juste d'annoncer 357 nouveaux cas pour les 24 dernières heures. Une réunion qui a eu lieu hier avec les plus hautes autorités sanitaires du pays. Le sujet, la préoccupation croissante pour la santé et les soins de plus d'un million d'Australiens âgés, je vous le disais en titre. Il en est sorti la nécessité d'une réponse nationale pour protéger les personnes âgées, surtout dans le Victoria, après que 8 des 12 derniers décès de l'État cette semaine étaient des résidents de maisons de retraite. Le médecin en chef de la santé publique, Paul Kelly, a déclaré que le cabinet national avait également discuté d'un meilleur moyen de coordonner l'action contre les épidémies et les soins aux personnes âgées, signalant une annonce dans les prochains jours. On l'écoute.
We know from all around the world that our most vulnerable people are our elderly, and particularly those in residential aged care. And we've seen some of those issues really emerging in the recent days and weeks in Melbourne. So we're asking for very granular information about that to guide our response. Similarly with the tracing and contact tracing and contacting those and some other measures related to healthcare and particularly intensive care.
C'était donc Paul Kelly, le médecin en chef de la santé publique. Le Premier ministre, quant à lui, a déclaré que l'Australie continuera d'appliquer une stratégie de suppression et non une stratégie d'élimination pour contrôler le coronavirus. Et c'est important puisque l'attitude sera différente. Scott Morrison a également déclaré qu'une base de données nationale complète sera créée pour surveiller l'épidémie et que les mouvements de marchandises entre les frontières se relèvera de nouveaux protocoles plus stricts, s'exprimant après le cabinet national. Scott Morrison a ajouté que l'Australie avait lancé une opération préventive contre les pays qui cherchaient à accumuler des vaccins contre le Covid-19, réitérant l'obligation pour tous les pays de partager ouvertement une découverte si vaccin il y a. On l'écoute.
I think there's an absolute obligation on whoever finds this to share it with the world. And you know, it was Australia through the Doherty Institute was the first to genetically reproduce the COVID-19 virus. And we shared it. We didn't sell it. We didn't restrict it. We shared it. We made sure everybody could get it. And we did it as soon as we found it. And that's the attitude, that's the leadership Australia has shown. And that's what we'd expect from other countries when it comes to a vaccine.
Donc Scott Morrison, le Premier ministre. De son côté, le chef de l'opposition a appelé à un plan plus clair pour sortir de la crise du coronavirus, surtout en ce qui concerne la création d'emplois. Le gouvernement fédéral a alloué 300 milliards de dollars pour la lutte contre donc, le virus, les États et les territoires dépensant, eux, 42 milliards de dollars. Les dirigeants ont convenu d'accélérer 15 grands projets d'une valeur d'environ 72 milliards de dollars, ce qui pourrait créer près de 66 000 emplois directs et indirects. Pour le chef de l'opposition, Anthony Albanese, le gouvernement doit saisir l'opportunité d'investir dans les infrastructures maintenant pour créer des emplois. On l'écoute.
This government likes slogans. Job keeper, job seeker, job trainer. What we actually need is job creator from this government. A plan to create jobs, to deal with how we come out of this pandemic. And its consequential economic downturn by actually growing the economy and by growing jobs.
13h06, direction la France maintenant. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier, lors d'une visite surprise à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, eh bien que 16 pays seront sur la liste dont les voyageurs émanant de ces destinations eh bien, devraient avoir l'obligation de se faire tester à leur arrivée sur le sol français. 16 pays donc, là où la France estime que le virus eh bien, n'est pas sous contrôle. Dans la liste, il y a les États-Unis ou encore le Brésil et l'Algérie. Reportage d'Alexis Bédu depuis l'aéroport parisien.
Geneviève n'a pas attendu les mesures du gouvernement. Elle vient d'atterrir du Mexique, pays considéré comme étant à risque. Elle a décidé de se faire tester au centre de dépistage de l'aéroport.
Beaucoup de gens se sentent un peu responsables. Et savoir que dans 2-3 jours, on saurait si on est malade ou pas, je crois que c'est important quand même.
Mais donc du coup, pendant ces 2-3 jours, vous allez faire quoi ?
Ah ben, je vais rester dans la maison où je vais être.
Pour Mariam, qui vient juste de retrouver sa mère en provenance de Téhéran, il fallait renforcer les mesures de sécurité sanitaire.
Je suis très étonnée qu'elle a pu sortir comme ça. Bah parce que je pense qu'il faut quand même quelques mesures, au moins des formulaires à remplir, qu'elle puisse contacter la personne et toutes ces choses-là.
Il y a eu un formulaire dans l'avion quand même, je crois, non ?
Maman, il y a un formulaire, tu as un paiement pour Cali ?
Non.
Pas de formulaire de santé sur ce vol Téhéran Paris, il fallait resserrer les vis, laisse entendre le Premier ministre Jean Castex.
C'est donc un dispositif de sécurité extrêmement important, sans doute plus fort que celui que mettent en place la plupart des pays voisins, mais qui était indispensable compte tenu de la reprise de la circulation virale dans notre pays.
Avec ce nouveau dispositif, 3000 personnes seront testées chaque jour, rien que sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
C'était donc un reportage d'Alexis Bédu à Roissy-Charles de Gaulle, à Paris. Donc, point intéressant d'ailleurs, et petit cocorico pour la France, le pays qui a le meilleur rebond économique post-Covid. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude du Boston Consulting Group, et c'est en partie lié et dû à la consommation des ménages. Le reportage ou les détails de Stanislas Daichimi.
La France est le maillot jaune du rebond économique post-confinement. C'est avec cette métaphore du cyclisme que Sylvain Duranton, directeur monde de la branche de data science du cabinet conseil Boston Consulting Group, commente les résultats de l'étude réalisée à partir des outils de l'intelligence artificielle. La France réalise ainsi la meilleure performance ex aequo avec l'Allemagne dans un groupe de 9 pays examinés, dont les États-Unis, le Japon, le Brésil ou encore le Royaume-Uni. Elle était pourtant le pays européen où l'activité économique avait le plus baissé pendant le confinement, c'est aussi celui où elle remonte le plus vite. La consommation, qui avait chuté de 49 points, a ainsi rebondi à 45 sur une échelle de 100 points, qui correspond à la consommation d'avant le début de la pandémie. Le secteur automobile, par exemple, qui a beaucoup souffert du confinement, reprend des couleurs qui sont encore moins vives qu'elles ne l'étaient avant la crise. Mais le responsable de la branche data science de BCG prévient: une reprise de l'épidémie de Covid-19 peut remettre en question le rebond actuel et les 5 mois qui viennent seront déterminants. Début juillet, la France a envisagé un rebond du produit intérieur brut de 8% l'année prochaine.
C'était Stanislas Daichimi pour RFI. Les responsables de la santé publique britannique avertissent que des personnes obèses et en surpoids courent un risque accru de décès ou de maladies graves dues au coronavirus. Public Health England indique que les données montrent que les personnes ayant un indice de masse corporelle de 30 à 35 ont un risque de décès du Covid-19 augmenté de 40%, et les chiffres augmentent à 90% pour ceux qui ont donc un indice de masse corporelle supérieur à 40. Le Premier ministre Boris Johnson s'est engagé à lutter contre l'obésité, affirmant qu'il avait lui-même perdu du poids depuis son admission en soins intensifs avec le Covid-19. On l'écoute.
You know, I'm not normally a believer in nannying or bossing type of politics, but the reality is that obesity is one of the real comorbidity factors. It's losing weight is frankly one of the ways that you can reduce your own risks from COVID, and actually it's one of the ways you can generally improve your health and protect the NHS.
Voilà, donc c'était Boris Johnson. Après avoir été incapable de conclure un accord avec le Congrès pour réduire les coûts pharmaceutiques, le président américain Donald Trump a signé 4 décrets pour réduire le prix de certains médicaments. Les décrets couvrent l'importation, les remises aux fabricants sur certains médicaments, comme les épipènes ou l'insuline, à un prix réduit pour Medicare. Donald Trump dit que ces ordonnances contribueront à réduire l'inégalité entre ce que les Américains payent par rapport à certains citoyens d'autres pays. On l'écoute.
We pay for all of the research and all of the development, and foreign countries pay absolutely nothing, and our consumer gets charged. This has been going on for decades. The American people pay an average of over 3 times more for medicine than the Canadians. Many people go to Canada. I see it all the time. They go to Canada, buy drugs, and then they come back. Prescription drugs, because they save so much money, the trip is well worth it.
13h11, des manifestants se sont rassemblés dans les rues d'Athènes pour dénoncer pacifiquement la décision de la Turquie de convertir un monument d'Istanbul, l'église Sainte-Sophie, qui est devenue une mosquée. Hagia Sophia était l'une des cathédrales les plus importantes de la chrétienté. Des milliers de fidèles musulmans de toute la Turquie ont pris part à des prières inaugurales spéciales par rapport à ce monument. Mais cette décision a suscité la consternation dans des pays tels que les États-Unis ou la Grèce, qui appelle le président turc Recep Tayyip Erdogan à conserver le bâtiment en tant que musée, clin d'œil au patrimoine multireligieux d'Istanbul et symbole de l'unité chrétienne et musulmane. Un manifestant grec nous dit que tout cela n'est pas juste. On l'écoute.
It's unfair to all over the world. It's unfair to all the to all religions, because you know someone made this big monument. He believed in a certain God. Someone else took this land and he wants to put his God inside this monument. It's very simple, but it's very easy for someone to understand that it's extremely unfair.
La Russie reprendra ses vols internationaux avec 3 pays à partir du 1er août. Les vols avec la Grande-Bretagne, la Tanzanie et la Turquie redémarreront, tandis que la Russie s'emploie à élargir cette liste. Le Premier ministre russe affirme que la décision de reprendre des voyages internationaux n'a pas été prise à la légère. On l'écoute.
A decision has been taken to resume international air travel. We have taken into account the epidemiological situation, infection statistics and the principles of reciprocity. Starting on August 1, flights will take place from Moscow, Moscow region, St. Petersburg, and Rostov-on-Don. This decision will also help us speed up the process of returning our citizens home from abroad.
Et coup d'œil météo pour aujourd'hui, pour cet après-midi. À Perth, il fera 22 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 13. Hobart, 13. Canberra, 15. Sydney, 18. Brisbane, 21. Cairns, 28. Et Darwin, du soleil et 32 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. De plus en plus de questions se posent dans le pays autour du coronavirus et notamment dans le Victoria sur la propagation du virus au sein des maisons de retraite. La France qui annonce un contrôle systématique des personnes arrivant depuis 16 pays, en particulier aux aéroports internationaux à travers l'Hexagone. Et on vient de le voir, le Paris Saint-Germain qui remporte la Coupe de France hier face à Saint-Etienne. Mais le double blessure de Kylian Mbappé a mis un petit point noir sur ce match. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.